Il peut arriver dans notre vie que notre faiblesse, les limites que le monde nous impose, ou voire que Dieu nous impose aussi, les impossibilités, les difficultés, les montagnes qui sont devant nous, nous amènent parfois à vivre dans une forme de découragement, voire de dépression spirituelle, tout simplement parce qu'on a l'impression que nous n'avons pas suffisamment de force et de capacité pour traverser les épreuves et les combats qui sont les nôtres. La parole de Dieu nous enseigne cependant qu'il y a toujours une solution pour celui qui veut marcher avec l'Éternel et que les armes que nous devons utiliser ne sont pas toujours celles que l'on penserait. Pour ça, j'aimerais lire avec vous un extrait du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, versets 14 à 18, où il est écrit ceci. « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme, pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Pourquoi ce passage se termine ainsi? Parce que une petite ville a été sauvée grâce à la sagesse d'une personne, mais avec le temps, cette sagesse a été oubliée, et les gens ont continué de penser que la force et les armes étaient la solution nécessaire pour régler les problèmes. Dans ce passage, pourtant, un autre enseignement nous est donné, un autre point de vue, un autre regard nous est communiqué de la part de Dieu. Tout d'abord, nous voyons au verset 14 qu'il y avait une petite ville. Alors, le mot « petit » ici parle d'une ville qui est éventuellement jeune, mais là, c'est pas le cas, c'est plutôt insignifiant ou sans importance. C'est-à-dire que c'était une ville qui apparemment était facile à prendre, qui n'avait pas beaucoup de force en elle-même, peut-être que la garnison n'était pas importante, les remparts n'étaient pas épais ou solides, et donc c'était une petite ville qui pouvait susciter la convoitise des armées étrangères. Et non seulement cette ville était petite, donc insignifiante et sans importance, et elle avait en son sein peu d'hommes. Le mot là parle du commun des mortels, hein, quelqu'un d'ordinaire, de vulgaire, voire de méchant parfois, mais en tout cas, ça parle d'un être humain assez insignifiant, mais en plus de ça, ils n'étaient pas nombreux. Donc voilà, c'était une petite ville et la population était insignifiante selon le regard humain. Et parfois, c'est un peu comme ça que l'on se voit, c'est-à-dire que on se voit comme une ville insignifiante, petite, sans force, avec en son sein peu de capacités, peu de dons, peu de force, peu de solutions, peu d'argent, peu de richesses, peu d'examens, peu de savoir, peu d'éducation, peu de chance parfois. Et donc on se voit là à la merci de tous les ennemis et notre vie nous paraît insurmontable. Et c'est vrai que les armées parfois sont là. Quand je parle d'armée, là, évidemment, c'est une image spirituelle, c'est que les problèmes sont là, et c'est difficile parfois d'y faire face. Mais la parole de Dieu nous encourage vraiment à marcher par la foi et à tourner notre regard sur la solution. Il est dit donc ensuite, un roi puissant marcha sur elle, l'investit, et éleva contre elle de grands forts. Alors en français, c'est en effet l'expression « grand fort » qui est utilisée, mais en hébreu, ça parle plus précisément d'un ouvrage et d'un rempart, c'est-à-dire que c'était des forteresses ou des fortifications construites autour de la ville pour faire un siège. Et il est dit que dans cette ville, assiégée donc devant des armées étrangères et puissantes, il s'y trouvait un homme, pauvre et sage. Là, le mot pour parler d'homme est différent de peu d'hommes qu'on a vu auparavant. Là, c'est un peu plus précis, ça parle en fait d'un mâle, en contraste avec la femme. Donc c'était un homme qui était pauvre et sage. C'est intéressant de voir que l'auteur ici oppose deux mots bien différents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui paraît être une faiblesse dans un premier temps. Il était pauvre, donc il n'avait pas de capacité particulière. Mais en revanche, il était sage, donc il n'avait pas des richesses matérielles, il n'était peut-être pas bien inséré dans la société, mais en lui, il y avait une richesse en réalité. C'est-à-dire que le fait que le mot pauvre soit associé au mot sage montre qu'en réalité, la richesse, c'est la sagesse, et que la vraie pauvreté, c'est le manque de sagesse. C'est pas, ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir la force ou les armes ou toutes les aptitudes naturelles pour traverser les épreuves que Dieu permet dans notre existence. Ce qui est important, c'est d'avoir les pensées de Dieu, d'avoir la sagesse de Dieu dans toutes les circonstances. Ce qui fait que même si parfois le siège dure longtemps, même si parfois les batailles sont difficiles, la sagesse qu'il y a en nous nous permet de garder une lucidité et de ne pas perdre de temps. D'apprendre à connaître Dieu et à jouir de la vie, même dans les situations difficiles, et ce qui permet également de faire bénéficier à notre entourage de cette sagesse, parce que très souvent, les moments difficiles, pas toujours, mais il y a des moments difficiles que l'on vit ensemble. Je pense notamment aux familles, où ça peut être une nation, où ça peut être une église, des amis. Et donc, il y a une sagesse à avoir et qui va être profitable pour notre entourage. Ici, le mot « sage » définit une habileté dans un travail, quelqu'un qui est expérimenté. C'est ça la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse consiste à être habile dans l'existence. Ça ne veut pas dire réussir selon les yeux de ce monde ou de la chair, mais ça signifie traverser les circonstances avec les attributs de Dieu, ce qui fait qu'il va y avoir la personne de Dieu qui va s'imposer. Et du coup, notre personne aussi va être respectée et nous allons pouvoir utiliser cette sagesse pour les autres encore une fois. Et donc, il est dit que cet homme était pauvre et sage et il sauva la ville par sa sagesse. C'est-à-dire qu'il a, c'est pas la richesse, il n'en avait pas, qui sauva la ville, c'est sa sagesse qui l'a sauvée. Alors, rien n'est dit hein, sur la stratégie ou la manière dont a été sauvée la ville. On peut penser, par exemple, qu'il a eu des idées pour construire de son côté des défenses appropriées devant le siège que la ville subissait. Toujours est-il qu'il a sauvé la ville par sa sagesse. Donc en réalité, cet homme est un héros. Le problème, c'est que son héroïsme est dû à cette sagesse qui n'est pas forcément regardée dans ce monde. On regarde tellement à l'apparence, à la force, parfois même à la brutalité ou au fait de s'imposer, que cet homme a dû rester humble apparemment, ce qui fait que cette sagesse a très vite été oubliée. Et il est dit donc dans la deuxième partie du verset, « Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre ». Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. C'est-à-dire que celui qui a regardé ou qui connaît cette histoire ou qui a regardé ces faits n'a pas oublié cette sagesse. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. C'est-à-dire que n'oublions pas la sagesse qui est nécessaire pour vaincre. N'oublions pas la sagesse qui est nécessaire pour affronter les difficultés de la vie. Lorsqu'il est parlé là de force, il dit la sagesse vaut mieux que la force. Le mot force parle d'une force corporelle, mais ça parle aussi d'une puissance, d'un pouvoir. Et c'est vrai que on a tendance souvent à penser que si nous avions du pouvoir, si on était chef d'État, si on était le maire, si on était l'entraîneur d'une équipe, si on était pasteur de l'église, si on était, si les enfants dirigeaient la famille à la place des parents, beaucoup d'entre nous ont tendance à penser que si nous avions le pouvoir, nous pourrions améliorer la vie et améliorer la nôtre, notamment. En réalité, c'est pas de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin de sagesse. Et si quelqu'un a éventuellement une puissance ou un pouvoir, il faut qu'il la mette au service de la sagesse et non pas de ses propres pensées. Parce que avoir du pouvoir sans la sagesse peut nous faire beaucoup de tort et faire beaucoup de mal à notre entourage. En réalité, c'est la sagesse qui doit nous dominer. Lorsque nous voyons Jésus marcher sur cette terre et manifester le caractère du Père, nous le voyons cet homme, notre exemple, empreint de sagesse. Les apôtres ont utilisé cette sagesse. C'était une folie pour le monde, mais c'était la sagesse de Dieu. La sagesse qui consiste à faire sa volonté et être un parfum de bonne odeur pour l'entourage, notre entourage, pour ceux qui cherchent consciemment ou non la vie, et parfois un parfum de mauvaise odeur pour ceux qui se dirigent vers la mort spirituelle. Et Là, il fait un commentaire en disant « Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. » Vous voyez, là, le mot « parole », c'est le prolongement de la sagesse. C'est-à-dire que par la manière dont nous pensons, nous pouvons communiquer des vérités. Lorsque Jésus est venu sur la terre, la parole s'est faite chair, mais en réalité, c'est la sagesse aussi qui s'est exprimée au travers de ses paroles. Et le texte continue ainsi « Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine. » Aujourd'hui, le monde domine. Nous sommes dans ce monde qui va passer, mais pour l'instant, il y a des voix qui dominent. Il y a des pensées qui dominent, qui s'imposent. Il y a peut-être des gens autour de nous qui ont plus de puissance que nous et qui ont l'air de nous dominer. C'est ainsi parce que la mort est entrée dans le monde, le péché est entré dans le monde, et nous-mêmes, nous faisions partie de ce monde. Et nous avons été rachetés par Christ de ce monde, mais nous y vivons encore. Nous sommes maintenant des ambassadeurs de la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce qui nous est demandé? Parce que dans un premier temps, dans le texte, il est parlé de cet homme sage qui parle. Mais là, maintenant, pour conclure, l'auteur encourage les auditeurs. Et les auditeurs, quelles solutions ont-ils? Peut-être que les auditeurs manquent de sagesse de leur côté. Eh bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il est dit ici, les paroles des sages, tranquillement écoutées. C'est-à-dire que parfois la vie n'est pas tranquille, il y a du tumulte autour de nous, il y a beaucoup de bruit. Mais si on écoute tranquillement les paroles des sages, ça vaut beaucoup mieux que les cris de celui qui domine. Parfois notre chair domine, notre chair crie, notre chair s'impatiente. Notre chair se met en colère, notre chair élève la voix de façon distincte, il y a peut-être des décibels ou des fois ça ne fait pas de bruit mais la colère est là dans notre pensée, dans notre âme et cette chair et ce bruit qui est en nous lutte contre l'esprit. Eh bien, nous avons besoin de prendre notre croix, de nous poser et d'écouter tranquillement les paroles des sages et évidemment de façon ultime, c'est d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les initiations du Saint-Esprit dans notre âme, d'écouter la vérité que nous recevons jour après jour. Il y a du bruit, mais écoutons tranquillement les paroles des sages. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine. Là, le verbe « dominer », d'ailleurs, en hébreu, parle de gouverner, avoir une domination, une autorité. Et peut-être qu'il y a des gens qui gouvernent, mais regardez ce qui est dit là. Ils gouvernent parmi les insensés. Et en hébreu, ça parle de lourdeaux, stupides, insensés, arrogants. Et nous, nous ne sommes pas de ce monde-là. On n'est pas meilleurs, mais nous avons été rachetés. Et grâce à la sagesse de Dieu, on peut ne plus penser comme un insensé. On peut ne plus penser comme un stupide. Encore une fois, pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a été renouvelé. Nous avons une nouvelle création. Il y a le Saint-Esprit en nous qui est capable de nous donner la capacité d'écouter les paroles des sages. Et du coup, ça va nous rendre intelligents. Et c'est pour ça que le passage se termine ainsi. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Le pécheur, lui, utilise les instruments de guerre et ce qui fait que ça fait beaucoup de ravages. Combien de fois un mot mal prononcé peut faire des ravages, une attitude peut faire des ravages, le fait de ne pas faire quelque chose pour autrui peut faire des ravages, le fait de ne pas donner sa vie pour les autres peut faire des ravages, le fait de garder son propre cadre de référence sans se soumettre à la pensée de Dieu et se mettre au service des autres peut faire des ravages. Mais la sagesse, elle, vaut mieux que tous les instruments de la chair parce que elle peut apporter la paix, la tranquillité, la maîtrise de soi, la sérénité, l'espérance, la joie du salut, toutes ces choses que parfois notre existence ne peut pas nous apporter. C'est ainsi. Mais par contre, nous avons une vie, c'est pas simplement une existence que nous avons une vie qui va au-delà des expériences que nous traversons. Et donc, ne pensons pas que la force est le moyen de Dieu. Lorsque nous sommes faibles, nous le savons, Paul l'a écrit, nous pouvons être forts par cette sagesse. Nous devons être la sagesse de ce monde pour transformer les cœurs. Lorsque l'on annonce le salut, c'est la sagesse de Dieu qui est manifestée. Un Dieu qui s'est rendu faible jusqu'à la mort de la croix, ça a été la sagesse de Dieu pour confondre les sages de ce monde qui sont en réalité des puissants, des gens qui gouvernent, des gens qui maîtrisent leur vie, qui pensent avoir raison, mais qui un jour peut-être peuvent être sensibles à cette sagesse. Ne pensons pas que notre faiblesse fait de nous des vaincus dans ce monde. Non, la défaite en réalité, c'est de ne pas penser sagement. C'est ça la vraie défaite. La victoire, c'est notre foi. La victoire, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit plusieurs fois, c'est que notre victoire, c'est de croire dans la sagesse de Dieu et de la dupliquer, de la copier et de la manifester autour de nous. Et cette sagesse peut amener la victoire contre le prince de ce monde, contre les doctrines de démons dont on a parlé récemment lors d'un culte. Toutes ces choses qui nous environnent, qui font beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de force, toutes ces choses semblent régner même sur notre existence, mais en réalité c'est un mensonge. C'est Jésus-Christ qui règne, il est au ciel, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, et donc il peut faire de nous son bras armé, mais ça ne va pas être des armes charnelles, ça va être des armes spirituelles, où nous allons donner notre vie pour les autres et au profit du royaume de Dieu. Nous allons laver les pieds des autres. Et donc, on n'est peut-être pas écouté, mais ça, c'est pas notre problème en réalité. On est peut-être pauvre, mais nous avons une sagesse à communiquer, et certains vont l'entendre, et ça va les amener à salut. Et nous-mêmes, jour après jour, avons besoin d'écouter tranquillement cette sagesse, de mettre du temps à part, d'avoir ces temps avec le Seigneur, où on va lui demander humblement, « Seigneur, donne-moi ta sagesse au milieu de telle ou telle situation, au milieu de tel conflit, au milieu de tel problème financier. Donne-moi ta sagesse afin que je puisse vaincre mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. »